Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'Arabie Saoudite. Le Ritz-Carlton de Riyad a rouvert ses portes récemment après avoir servi depuis novembre dernier de prison dorée pour des dizaines de princes et de hauts responsables saoudiens. Il était au centre d'une purge anticorruption sans précédent, fer de lance de cette campagne, le prince Mohamed Ben Salman. L'opération n'a épargné ni les membres de la famille royale ni les hauts responsables. La volonté était forte chez Mohamed Ben Salman d'affaiblir ses rivaux politiques et leur réseau, de consolider donc son pouvoir afin de poursuivre dans son intention de réformer le pays, d'en faire une nouvelle nation saoudienne, non plus fondée sur les liens tribaux et la famille royale, mais sur une économie diversifiée. Y parviendra-t-il et à quelle échéance? L'objectif de 2030 est-il réalisable? En quoi le changement est-il nécessaire? Quelles chances de succès? Quels obstacles? Pour cette édition réalisée en partenariat avec la revue Question internationale, dont le dernier numéro pose la question, Arabie Saoudite, transformation ou illusion? Nos invités, Fatia Dazieni, chercheuse spécialiste des monarchies de la péninsule arabique et du Golfe à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, l'Arabie Saoudite en 100 questions, aux éditions Thaïlandier. Bonjour.
Bonjour.
Serge Sûr, directeur de l'annuaire français de relations internationales, rédacteur en chef de la revue Question internationale. Bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Dallage, journaliste à RFI, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la péninsule arabique, dont une géopolitique de l'Arabie Saoudite aux éditions Complexe. Bonjour.
Bonjour.
Comment mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé? La purge commençait le 4 novembre, une échelle inédite dans l'histoire du royaume. La cible, le Gotha de la société saoudienne. De nombreuses personnalités visées. Fatia Dazieni.
Oui, donc cette purge en fait était destinée à consolider de manière très radicale le pouvoir personnel de Mohamed Ben Salman, parce qu'il ne faut pas oublier que ce jeune homme est quand même très mal reçu au sein de sa famille. Donc pour ce faire, donc évidemment, il a pu compter sur le soutien indéfectible de son père, qui lui est une autorité extrêmement forte et légitime au sein de la famille royale, et également parmi le clergé. Mais il faut savoir que le clergé ne compte pour rien sur les questions de succession et de pouvoir. En revanche, évidemment, le clergé avait jusqu'à présent une autorité importante, puisqu'il avait le contrôle de la société. Ce en quoi, aujourd'hui, Ben Salman, donc le jeune prince, est en train de radicalement déroger aux règles, puisqu'il a réduit très fortement le rôle de la police religieuse, et donc une manière un peu de séculariser assez radicalement, quand même, la société saoudienne, puisque le clergé est un appui encore important, bien sûr, du pouvoir saoudien, mais on lui demande aujourd'hui de ne plus s'occuper aussi du contrôle social, ce qui était l'une de ses prérogatives avec l'éducation et la justice. Donc, là, on a un jeune prince, et de manière tout à fait inédite, depuis la fondation du royaume moderne d'Arabie Saoudite, qui contrôle tous les pouvoirs régaliens, tous les pouvoirs. Il a sous son autorité la garde nationale, l'armée, il est ministre de la Défense. Il a été ministre de la Défense avant de devenir vice-prince héritier et prince héritier. Et il a donc sous son contrôle aussi le ministère de l'Intérieur. Et il a, encore plus, si vous voulez consolider son pouvoir, transféré l'essentiel des prérogatives du ministère de l'Intérieur, à savoir les renseignements et tout ce qui est antiterroriste, au sein d'une nouvelle institution qui s'appelle Amn Daoula, Sécurité d'État, qui est sous le contrôle du Palais Royal. Et il est en train également de créer toute une gamme d'autorités publiques nouvelles, souvent dirigées par des gens du secteur privé, afin de, si vous voulez, contourner la lourdeur bureaucratique qui constitue l'essentiel, à mon avis, du problème pour Ben Salman par rapport à sa vision 2030, parce qu'il se heurte à un bloc comme ça extrêmement compact, clientéliste, où la compétence et le travail n'est pas forcément de mise, mais le piston, les réseaux de clientèle sont. Et c'est ce qu'il a essayé de faire de manière assez radicale, de changer. En s'attaquant justement au système endémique de corruption qui était la norme, puisque les princes se sont toujours enrichis via leur réseau de clientèle, comme ça par fief, parce que la monarchie saoudienne était construite sur le partage des pouvoirs, et les princes seniors, donc ceux qui comptaient le plus, si vous voulez, régnaient sur leur ministère comme s'ils régnaient de manière autonome. Et c'est comme ça, si vous voulez, que le système entre les princes, les hommes d'affaires et le système d'affaires est construit en Arabie Saoudite. Donc lui, sous prétexte donc de briser justement cette corruption endémique, il a montré aux Saoudiens qu'ils pouvaient s'en prendre de manière radicale à ses pairs, en montrant comme ça l'exemple, en disant, vous voyez, moi je m'en prends à mes propres pairs, donc je suis quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de très populiste, et c'est vrai que, moi j'étais à Riyad, c'est vrai que j'ai pas sillonné tout le royaume, donc je peux pas dire que c'est représentatif de tout ce qui se passe au royaume, mais ça a été reçu de manière extrêmement positive.
Parce que finalement, Olivier Dallage a un peu double objectif de cette purge, c'était d'une part donc régler des comptes, se débarrasser d'un certain nombre de rivaux, et puis donner de la visibilité à sa politique, et il est vrai que s'en prendre aux plus riches du royaume doit avoir un écho dans la population saoudienne plutôt favorable, comme le disait Fatia Dezini.
Alors pour paraphraser quelqu'un, je dirais que cette purge a une apparence et elle a aussi une réalité. L'apparence, c'est la lutte contre la corruption et la récupération de sommes indûment gagnées. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement assez populaire, mais c'est dangereux parce que la lutte contre la corruption, ça doit se poursuivre dans le temps, sinon les attentes sont tellement hautes qu'on crée de la déception. Et c'est sans doute pas un hasard si des informations fuitées sur les dépenses du prince héritier qui se situent à hauteur de 400, 500 millions pour l'achat d'un château, d'un yacht, d'un tableau, etc., qui n'a peut-être pas gagné entièrement à la sueur de son front. Ça, c'est une première chose. La deuxième, la réalité, c'est ce qui a été dit, c'est le renforcement du pouvoir personnel. On n'est plus dans l'allégeance tribale traditionnelle où on vient baiser l'anneau. L'allégeance, c'est je signe une reconnaissance que j'ai été corrompu et que je rends une partie de mes avoirs à l'État et je m'incline devant celui qui m'a fait céder. Et même le prince Al-Walid Ben Talal, qui a résisté longtemps, bon, il est sorti plus ou moins la tête haute, mais on ne sait pas la teneur du compromis. Donc, c'est vrai que de ce bras de fer avec des princes et des hommes d'affaires, pour l'instant, le prince héritier sort gagnant.
Serge Sûr.
Oui, moi je dirais qu'il y a une double lecture de cette prise du pouvoir. C'est une prise du pouvoir par Mohamed Ben Salman. Alors il y a la lecture optimiste, si je puis dire, qui est celle de la construction d'un État. Il reprend au fond le mouvement qui avait été celui fondateur d'Ibn Saoud, créer un État à partir d'une société qui était tribale. Et l'effort d'Ibn Saoud a été vraiment de créer un État avec une administration, avec un sens de l'intérêt général. Ça s'était un petit peu dissous, comme vous l'avez dit, et maintenant il reprendrait cet effort. C'est un petit peu la prise de pouvoir par Louis XIV, qui liquide les grands féodaux, et puis qui installe un pouvoir d'État au centre de la nation. Et puis la deuxième lecture, qui est plus pessimiste, c'est celle du parrain. Michael Corleone succède à son père et il élimine tous les rivaux. Et puis la corruption va être remplacée par une autre forme de corruption. Alors les deux lectures ne sont pas incompatibles d'ailleurs, elles sont peut-être vraies en même temps. Et après tout, c'est peut-être une étape nécessaire à la construction d'un État.
Fatia Dezini.
Enfin, l'État, il est construit. Moi, je pense que Ben Salman, c'est la construction d'une nation qu'il projette.
C'est vrai.
Et c'est vrai qu'il est complètement dans l'héritage du grand-père.
Mais quand même, il veut déféodaliser l'État. Quand vous dites un ministère est tenu par
une branche
de la famille, ça n'est tout de même pas l'État, c'est une féodalité.
En fait, il a opéré une désegmentation pour mieux resegmenter. Et là, votre double lecture est très pertinente, parce que, effectivement, l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai que ce que fait aujourd'hui Ben Salman, ça ne veut pas dire qu'il va recréer des clientèles cooptées, c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, même au sein de la famille royale. Il est en train de coopter une nouvelle génération de princes qui lui serait beaucoup plus acquise. Mmh. Et c'est vrai qu'on voit aussi, il y a des cercles concentriques qui entourent ce jeune prince. On voit, par exemple, autour du fameux fonds souverain, PIF, que c'est quand même, entre guillemets, sa bande, qui tient tous les postes administratifs. Oui. Il a sa fameuse fondation MISC. Vous savez, c'est cette fondation qu'il a créée en 2011, et parce qu'il est extrêmement féru d'économie virtuelle, start-up, etc. Et il a également un cercle concentrique. Donc, c'est vrai que tous ces cercles qui l'entourent aujourd'hui, c'est un petit peu sa nouvelle équipe. Donc, est-ce qu'il va recréer un système comme par le passé? Peut-être un peu différent, mais en tout cas, son système à lui, autour de cooptations nouvelles, pour réinventer une économie politique, etc. En tout cas, c'est ce qu'il essaie de nous dire via sa vision 2030.
Oui. Et si j'ai bien compris, c'est un pur saoudien. Ah, il n'a pas étudié à l'extérieur, à la différence de nombreux princes de sa famille, qui sont d'une certaine façon plus cosmopolites. Lui est un pur saoudien, donc il connaît très bien la société saoudienne.
Exactement.
Et il sait sur quel rouage il peut s'appuyer et là où il faut taper.
Olivier Dallage.
Bon, là, on a maintenant quelques mois pour essayer de discerner le modèle qu'il est en train de suivre. L'impression que j'ai, c'est qu'on va vers une normalisation autoritaire, c'est-à-dire que la monarchie saoudienne n'avait pas été pensée dans la durée par son fondateur, puisque ses successeurs étaient ses frères, et puis qu'est-ce qui venait après ? Tout ça s'est défini au fil du temps. Voilà. Là, il recentre tout sur la branche Salman, et on peut penser que ses héritiers seront, enfin, par ordre de primogéniture, et une normalisation monarchique classique, c'est-à-dire qu'on va avoir une monarchie autoritaire, probablement moderne, en tout cas c'est le but, mais qui ressemble beaucoup à toutes celles qu'on a connues en Europe et ailleurs.
Alors effectivement, la question se posait de savoir si l'avenir même du régime monarchique en Arabie Saoudite était en question. Fatia Desieni.
Oui, c'est très important ce que vient de dire Olivier. C'est vrai qu'on a assisté à une rupture stratégique du modèle monarchique saoudien. C'est vrai qu'on avait ce modèle horizontal, partage des pouvoirs entre cette fratrie qui devenait assez âgée. Et Salman, donc le roi Salman, a opéré une pierre de coups, si vous voulez. Non seulement il a opéré le saut générationnel à la troisième génération, parce que les petits-fils, on dit que c'est la troisième génération, mais il a effectivement choisi un linéage dominant, le sien, sous Deri, mais surtout sa propre descendance. Donc ça, c'est vraiment une révolution. Alors c'est à double tranchant, certains disent c'est inédit, c'est peut-être la fin de la monarchie. Moi j'aurais tendance à dire le contraire, c'est que au contraire, en choisissant un linéage dominant, on risque justement de faire perdurer le modèle monarchique, mais d'une toute autre manière, comme l'a très bien dit Olivier, effectivement, on s'achemine vers la fin de l'exceptionnalisme saoudien et la normalisation vers un État autoritaire lambda.
Alors, est-ce qu'il y a des contreparties pour ceux qui sont écartés du pouvoir, cette verticalité nouvelle donnée à la monarchie ? Évidemment, il y a beaucoup de mécontents, Fatia Desieni. Qu'est-ce que l'on sait de ce qui peut contrebalancer cette décision et calmer les obstacles ?
Pour le moment, si vous voulez, la légitimité de la décision, elle vient du roi Salman. Donc, le roi Salman, on ne conteste pas sa décision. En revanche, ce qui fait énormément de mécontents, c'est effectivement la sélection de ce jeune prince Mohammed bin Salman, qui, lui, s'est créé énormément d'ennemis. Donc, du temps que le papa est vivant, il est le garant.
Alors, papa qui a 82 ou 83 ans.
Oui, mais vous savez, les rois, même malades, ils vivent assez longtemps. donc, tant que son père, effectivement, est là, c'est une garantie. Et ça lui laisse le temps d'essayer, finalement, de commencer à avoir des résultats sur sa vision. Parce que, pour moi, l'essentiel pour Ben Salman, ce sera les résultats sur le plan économique.
Ouais. Hein,
c'est la grande question. Maintenant, les arrangements interfamiliaux, c'est une tradition. On négocie. Il y a déjà des négociations. On l'a vu sur la purge. Ça a été brutal. Mais finalement, tout s'est négocié par des arrangements. Donc, je ne pense pas que, même si le prince Ben Salman échoue dans ses réformes, parce que, évidemment, il met vraiment le viseur très haut, il y aura de toute façon énormément de possibilités de négociations et d'arrangements. Ça, ce sont des choses qui se passent vraiment au sein de la famille. Mais si vous voulez, les princes dominants, il n'y en a pas. Quand on dit la famille Al Saoud, c'est 20 000 personnes, il n'y en a pas 20 000 qui comptent. C'est une petite poignée. Mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas à nouveau des négociations avec l'ancien prince héritier qui a été évincé et qui est une personnalité très estimée au sein de la famille royale? Pourquoi il n'y aurait pas non plus des négociations avec Mitab, l'ancien de la garde nationale? Il est tout à fait possible qu'on assiste à des arrangements entre les princes, entre-temps. Mais pour le moment, la garantie, c'est le roi Salman.
Alors, plusieurs questions par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent et des domaines sur lesquels je souhaiterais qu'on passe un petit peu de temps. Les résultats sur le plan économique de ce fameux plan Vision 2030, l'objectif, on le connaît en partie, en tout cas, réduire la dépendance du Royaume saoudien aux revenus pétroliers qui représentent environ 75% des recettes budgétaires depuis 2015, prévu notamment la privatisation partielle de la compagnie pétrolière saoudi Aramco. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, Fatia Desini, quant au résultat et au succès de ce que propose Mohamed Ben Salman? Et on parlera ensuite de la question du clergé et des conservateurs religieux. Sur le plan économique d'abord, Fatia Desini.
Sur le plan économique, son principal cheval de bataille, c'est de créer des emplois pour cette jeunesse. Hein. C'est très clair. D'où la volonté. Alors, le problème, c'est que ces réformes économiques, c'est aussi lié à un changement profond de mentalité. C'est-à-dire qu'il veut changer aussi la culture au travail. Jusqu'à présent, c'était vraiment l'absence d'effort. Les gens, en général, accédaient aux services publics par piston. Aujourd'hui, on a évidemment un secteur public totalement pléthorique. Et le seul à même de pouvoir créer des emplois, c'est le secteur privé. Mais le secteur privé en Arabie Saoudite a cette anomalie de dépendre complètement du public, de contrats de l'État, si vous voulez. Donc, il doit complètement révolutionner et réinventer l'économie politique de son pays. Donc, ça va prendre du temps. Donc, on va voir que les Saoudiens sont des enfants gâtés et ils s'impatientent déjà. Donc, le gros problème de Ben Salman, c'est la lourdeur bureaucratique qui domine son pays et une jeunesse impatiente, pas habituée au goût de l'effort. D'autant qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les Saoudiens payent des taxes, ce qui est quand même...
Une révolution.
C'est révolutionnaire. Pays. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un prince pressé. Effectivement, il y a déjà eu beaucoup de grogne quant au fait d'avoir coupé les subventions, etc. Mais sur le court terme, sur les 5 ans à venir, c'est vrai qu'il doit absolument créer en masse des emplois, puisque chaque année, vous avez 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, et à l'horizon 2030, on a 6 millions de jeunes qui seront la génération de 20-30 ans.
Serge Sûr.
Oui, alors le problème, c'est que l'Arabie Saoudite a vécu pendant très longtemps de la rente pétrolière et que on a eu tendance à considérer que ça allait durer tout le temps. Et puis, le prix du pétrole a chuté. Il en est résulté pour les finances publiques saoudiennes de grandes difficultés. Et je pense que le plan 2030 répond en partie à cette difficulté ou tend à répondre à cette difficulté. Mais en même temps, il n'est pas du tout évident que le pétrole soit une ressource en voie d'épuisement et que on dépasse le pétrole à terme prévisible. Il est très probable que les cours du pétrole vont remonter, que le prix du pétrole va remonter, et que donc l'économie saoudienne en retirera pas mal de bénéfices. C'est tout le problème du plan de 2030. Est-ce que vraiment il sera nécessaire? On a déjà connu dans le passé des périodes où il y avait des chutes brutales du prix du pétrole, où l'Arabie saoudite entrait dans la voie de réforme, et puis ça s'est interrompu. Parce que, précisément, le pétrole revenait en vogue. Et donc, c'est une des hypothèques qui pèsent sur ce plan, c'est qu'il est étroitement lié, étroitement dépendant à la crise pétrolière. Et celle-ci peut parfaitement rebondir. Les prix du pétrole peuvent remonter. Ils sont d'ailleurs déjà en train de remonter.
Oui, mais il y a également la consommation très, très importante énergétique des Saoudiens. Et au rythme de leur consommation... le royaume ne sera plus en capacité d'exporter énormément. Donc, la question de la réforme, elle se pose quand même.
Elle se posera de toute façon, oui.
Olivier Dallage.
Alors, trois remarques. La première, c'est que les objectifs annoncés n'ont rien de nouveau. On les entendait depuis le début des années 80. Je me rappelle qu'en 98, l'ancien prince Abdallah, qui n'était pas encore roi, avait mis en garde contre la fin des périodes d'aisance et qu'il allait falloir se mettre au travail. Le plan 2030 a été conçu par des cabinets conseils qui avaient déjà imaginé ceux des Émirats Arabes Unis. Sauf que les Émirats Arabes Unis, c'est tout petit à côté de l'Arabie Saoudite. Et on peut pas plaquer comme ça des recettes toutes faites, même si certaines briques peuvent s'adapter. Les autres ne le seront peut-être pas nécessairement. Et enfin, il y a une question fondamentale qui est liée justement à ce besoin lié à la population elle-même. C'est que l'Arabie aujourd'hui a besoin d'investissements extérieurs. Et la question de la sécurité juridique est absolument primordiale. À partir du moment où les milieux d'affaires ont le sentiment qu'on peut arrêter des hommes d'affaires simplement d'un claquement de doigts, la sécurité n'est pas là. Donc il va falloir répondre à cette question.
Et de façon rapide. Donc voilà, la question de l'objectif du plan Vision 2030, avec des résultats économiques à suivre. La question religieuse, Mohamed Ben Salman se présente comme le modernisateur d'une société étouffée par l'archaïsme hérité du pacte conclu entre la famille royale et la prédication wahhabite au milieu du XVIIIe siècle. Il entend contenir dans la société le rôle des religieux. Est-ce qu'il s'agit d'un recadrage ou d'une marginalisation réalisation. C'est sur cette question que nous redémarrons la deuxième partie de l'émission. Nous retrouvons nos invités, Fatia Dazieni, Serge Sûr et Olivier Dallage, dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Arabie Saoudite, transformation ou illusion, nous retrouvons nos invités, Fatia Dazieni, chercheuse spécialiste des monarchies de la péninsule arabique et du Golfe à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, auteur de plusieurs ouvrages, dont l'Arabie Saoudite en 100 questions aux éditions Talendier, Serge Sûr, directeur de l'annuaire français de relations internationales, rédacteur en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro est précisément consacré à l'Arabie Saoudite, et Olivier Dallage, journaliste à RFI, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la péninsule arabique, dont une géopolitique de l'Arabie Saoudite aux éditions Complex. Nous avons terminé la première partie de l'émission en évoquant la question des réformes dans leur ensemble au sein de l'Arabie Saoudite, la question de la relation du pouvoir avec le clergé. On l'a dit, Mohamed Ben Salman, dont l'ascension a été absolument fulgurante, se présente comme le modernisateur d'une société étouffée par l'archaïsme hérité du pacte conclu entre la famille royale et la prédication wahhabite au milieu du XVIIIe siècle. Il entend contenir dans la société le rôle des religieux. De quoi parle-t-on, Fatia Dazieni, de recadrage, de marginalisation, et en quoi la résistance des religieux conservateurs peut peut-être mettre en échec la volonté de réforme de Mohamed Ben Salman?
En fait, il revient effectivement sur ce pacte fondateur qui faisait que les religieux avaient le contrôle sur la société. Et les Al-Saoud, donc, traitaient des affaires politiques intérieures et régionales. Hein. Et visiblement, en réduisant le rôle quant au contrôle social des religieux, on abaisse effectivement, si vous voulez, ce qui faisait 50-50 en termes de pouvoir, très clairement, la famille Al-Saoud. Donc, hélas, ça prouve bien que c'est absolument pas une théocratie, mais un pouvoir politique qui domine le religieux, ça a toujours été le cas, sauf que jusqu'à présent, c'était quand même assez équilibré, puisque le contrôle social, les affaires juridiques et l'éducation étaient du ressort des religieux. Aujourd'hui, très clairement, que ce soit en termes de réduction du rôle de la police religieuse, ou même avec la vision 2030 de privatisation de beaucoup d'écoles, etc., l'éducation commence à échapper un petit peu au contrôle des religieux, et en matière juridique, il y a énormément de réformes pour avoir un droit du commerce, etc., et qui sortent un petit peu de la tutelle des religieux. Donc très clairement, on va vers un déséquilibre de ce qui constituait le pacte fondateur, c'est clair. Mais il y a aussi dans ces réformes et ces annonces concernant le religieux, il faut faire attention, parce que quand il dit « je vais détruire l'extrémisme », dans le terme « extrémisme », qu'est-ce qu'il met ? C'est ça le souci. Visiblement, son nouveau cheval de bataille, c'est de s'en prendre à l'islam politique. Quand il dit extrémiste, il pense sahwa, c'est-à-dire, vous savez, c'est cet islam politique salafiste qui s'est inspiré des frères musulmans, et notamment des frères musulmans venus d'Égypte en masse dans les années 60. Donc c'est tout ce courant, et Ben Salman, là on le voit, il est très largement sous l'influence aussi de son mentor, le prince héritier d'Abu Dhabi, qui est effectivement la personne la plus hostile aux frères musulmans, d'où la crise aussi avec le Qatar, etc. Donc il se positionne au sein de son pays, Ben Salman, comme celui qui va effectivement... Alors évidemment, il met également les cellules terroristes djihadistes dans le même cercle, mais il faut voir que dans le terme extrémisme, il met quand même des gens qui sont des activistes politiques tout à fait pacifistes, plutôt réformateurs, dans le même sac que tous les djihadistes. Donc il faut aussi avoir cela en tête.
Olivier Dallage.
Alors il y a une constante en Arabie Saoudite, c'est que les religieux font la loi quand ils sont face à un roi un peu faible. Ce qui a été le cas du roi Fahad, qui pourtant avait été un prince héritier fort, mais qui s'est avéré un roi faible à leur égard. Et en revanche, ils rentrent dans le rang quand ils ont un roi fort, ce qui s'est passé avec Faisal, ce qui s'est passé avec Abdallah, et ce qui pourrait se passer avec Mohamed Ben Salman, sachant que ce sont des fonctionnaires et qu'au bout du compte, ils n'oublient pas qu'ils signent le chèque. Mais le problème, comme le rappelait Fatiha, c'est les religieux d'une génération intermédiaire, ce qu'on a appelé le mouvement de la Sahwa, et il en a mis en prison beaucoup au mois de septembre dernier. Et eux sont assez influents dans une grande partie de la jeunesse et de la société. Donc, il peut contrôler ce qui est en haut. À l'intérieur, entre les deux, c'est plus compliqué.
L'Arabie Saoudite dans son contexte régional, Serge Sûr, ce qu'on a vu, ce qu'on voit concernant l'Arabie Saoudite, une politique étrangère très axée sur la rivalité avec l'Iran. Les printemps arabes ont rapproché Israël de l'Arabie Saoudite, laquelle est perçue par les autorités israéliennes comme le principal vecteur de la contre-révolution destinée à stabiliser le Levant et balayer la mouvance des frères musulmans. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de la relation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, une relation qui est entrée avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche dans une ère nouvelle. On peut rappeler que Washington a fait de l'endiguement de l'Iran sa priorité au Moyen-Orient, ce qui la rapproche de facto de la politique régionale saoudienne, mais sont assez peu lisibles finalement les conséquences du rapprochement pour la région et plus largement pour l'évolution de l'engagement américain.
Ça fait beaucoup de questions.
Ça fait beaucoup
Alors,
de questions.
Si vous permettez, je voudrais peut-être commencer par situer l'Arabie Saoudite dans son environnement régional et rappeler que cette région est la plus conflictuelle du monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et en outre qu'on a l'impression que dans cette région, le droit de la guerre a disparu. C'est-à-dire que, aussi bien pour ce qui est du recours à la force que pour ce qui est des conditions d'emploi de la force, aucune règle ne semble s'appliquer. On est dans la transgression permanente. Et donc c'est un problème pour ces États qui semblent vivre au XIXe siècle dans un autre espace et dans un autre droit international que celui des Nations Unies par exemple. On l'a constaté, il y a eu des agressions, il y a des interventions extérieures qui étaient toutes plus ou moins contraires au droit. Et par rapport à cela, l'Arabie Saoudite est longtemps apparue comme un pôle de stabilité. Mmh. Tous les États de la région ont connu instabilité, difficultés, violence. L'Arabie Saoudite, bien sûr, a été frappée par le terrorisme à certains moments, mais peut-être parce qu'elle a une protection naturelle qui est celle du désert et qui fait que jamais aucun empire n'a pu s'y établir. Ça, c'est tout de même très caractéristique aussi, c'est que l'Arabie Saoudite n'a jamais été véritablement colonisée et qu'elle a été créée par Ibn Saoud à partir de rien. Il a réussi à créer un État, puis une nation, à partir d'une structure féodale extrêmement dispersée. Et il ne doit pas grand-chose à l'extérieur, sauf peut-être à l'appui américain. Alors là, il y a toujours eu un lien très étroit entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, puisque les Britanniques auraient bien aimé mettre la main sur l'Arabie Saoudite. Et les États-Unis l'ont toujours bloqué. Rappelons-nous le pacte de Kinsey et la rencontre entre Roosevelt et Ibn Saoud qui est au fond la base d'un lien structurel, je dirais, entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Alors il peut y avoir des variations, il peut y avoir des évolutions, des temps forts, des temps faibles, mais il y a vraiment un lien indissociable. C'est aux États-Unis que l'Arabie Saoudite a dû de préserver son indépendance, son particularisme et d'être le foyer d'un islam pur en quelque sorte. Mais alors, vous parliez de la religion. Pendant un certain temps, la religion a été un des éléments importants du soft power d'Arabie Saoudite, dans le monde arabe, dans le monde musulman, et même au-delà, au sein de l'émigration, par l'encouragement qui était fait à la création de mosquées. Et on sent que maintenant, avec Salman, il y a tout de même un reflux de cela, il y a tout de même une crainte que cette religion ne devienne une charge et ne devienne une menace même pour l'Arabie Saoudite. Et en même temps, l'Arabie Saoudite n'a que des moyens militaires faibles. Elle a une armée qui pourrait être passée impressionnante sur le papier, mais qui en réalité comporte du matériel ancien, des soldats qui ne sont pas véritablement formés ou entraînés, et on voit bien au Yémen toute la difficulté que l'Arabie Saoudite a à faire prévaloir les mouvements qu'elle soutient. Quant au rapport avec l'Iran, on ne comprend pas véritablement cette querelle. L'Arabie Saoudite a-t-elle besoin d'un ennemi et veut-elle se dresser face, reprendre en quelque sorte le flambeau du sunnisme contre le chiisme? Mais probablement ça n'est pas la raison essentielle. C'est beaucoup plus une rivalité de caractère national. Et ce qui me paraît caractériser maintenant le Proche et Moyen-Orient, c'est qu'au fond, on a un peu partout affaire à des États-nations. Contrairement à ce qu'on dit, les frontières Sykes-Picot tiennent. Et on a constitué des États-nations. C'est une région qui est un cimetière d'empires, parce qu'on voit partout des empires, des fantômes d'empires dans cette région. Mais maintenant, on a affaire à des États-nations et qui se comportent comme tels. De sorte qu'à mon avis, les grilles de lecture des relations interétatiques du XIXe siècle sont celles qui sont les plus pertinentes pour apprécier les relations internationales de cette région.
Donc, rivalité puissance, on va peut-être en parler. Juste quelques chiffres pour situer l'armée saoudienne, puisque vous en parliez à l'instant, Serge Sûr. Quatrième ou cinquième budget militaire de la planète, quand même, pour l'Arabie Saoudite, ça n'est pas rien. 53 milliards de dollars en 2017 et la troisième armée du Golfe par le volume derrière l'Iran et l'Irak. Fatia Daziani, la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, une rivalité de puissance. Est-ce que l'Arabie Saoudite est une puissance régionale et qu'est-ce que l'on sait de sa stratégie?
Alors c'est deux très bonnes questions. C'est vrai que moi j'ai tendance à dire l'Arabie Saoudite est un pays très riche mais pas une puissance régionale. Son vecteur de puissance c'est effectivement sa richesse et son soft power religieux. Si l'Arabie Saoudite a réussi quelque chose en matière de stratégie diplomatique, c'est bien ce soft power religieux. Concernant la rivalité avec l'Iran, aujourd'hui, très clairement, le curseur pour les Saoudiens, c'est dire nous sommes encerclés par la présence iranienne. Ils considèrent aujourd'hui que l'Iran est l'ennemi numéro un quant à leur existence, carrément. Pour eux, c'est une menace existentielle. Le fait que l'Iran, effectivement, maîtrise une partie, en tout cas, de l'échiquier en Irak, en Syrie, au Liban, et c'est beaucoup plus servi du mouvement rebelle Houthi contre les Saoudiens, parce que c'est vrai que l'Iran n'a traditionnellement aucune influence au Yémen. Mais il n'empêche que les Saoudiens, pour lancer ce conflit, ont justifié ce conflit en disant « nous avons l'Iran à notre frontière sud, donc nous sommes encerclés ». Et ceci explique aussi le rapprochement avec Israël, parce qu'on considère qu'il faut à tout prix contenir l'expansionnisme iranien. Et c'est vrai que moi, la grille de lecture chiite versus sunnite, je ne la prends pas au sérieux. J'estime que, bien sûr, l'héritage de la révolution islamique en 1979, ces deux projets islamiques, l'un républicain révolutionnaire iranien et l'autre ultra-orthodoxe et conservateur saoudien, les a toujours opposés. Mais il s'agit beaucoup plus de rivalité d'influence politique donc le religieux, le sectarisme a été un petit peu instrumentalisé. Si vous voulez, le sectarisme est surtout à Paris après la chute de Saddam Hussein en 2003. Donc voilà un petit peu pour essayer de recadrer cette rivalité qui n'est pas à la même échelle. Bien sûr que l'Iran est la grande puissance de la région, c'est incontestable, et l'Iran reviendra sur l'échiquier. Aujourd'hui, vraiment, les Saoudiens font tout pour essayer de pressuriser l'Iran à ne pas revenir dans l'échiquier de l'économie mondiale. D'où ce rapprochement avec Trump, c'est cette convergence d'intérêts avec Trump et Israël pour contenir au maximum l'Iran et obliger aujourd'hui les Iraniens à faire un choix. Certes, vous êtes une grande puissance, mais vous arrêtez votre expansionnisme dans la région. Et d'où ces demandes à l'Iran sur un accord sur le balistique, etc., etc.
Alors, d'où ces rapprochements avec les États-Unis, avec Israël, Olivier Dallage, il y a une visite importante qui s'est passée à la fin de l'année 2017. C'était la visite du roi Salman à Moscou. Et c'est vrai que l'on voit une Arabie Saoudite chercher à se rapprocher de la Russie, aujourd'hui acteur important, c'est un euphémisme, dans la région.
Oui, c'était la première visite d'un roi saoudien en Russie ou même en Union soviétique. Et c'est un roi âgé, malade, donc c'était effectivement plein de significations. Bah, tout simplement parce que l'Arabie Saoudite s'est rendue compte qu'elle avait perdu sur le terrain en Syrie. Et plutôt que de s'obstiner, elle va voir le nouveau parrain régional qui apparaît être Poutine. Et puis, il y a aussi la question de la coopération sur le pétrole. Et elle a besoin de trouver une porte de sortie parce que elle s'est mise elle-même dans une forme d'impasse. Ce qui est extrêmement dangereux dans la situation actuelle, c'est qu'on a trois pays qui ont été mentionnés, les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite, qui voient l'Iran comme la source de tous les maux, pour des raisons qui leur sont propres, qu'ils croient réellement jusqu'à un certain point, puis ils en rajoutent pour le reste. Chacun de ces trois pays essaye de manipuler les deux autres pour agir pour son compte. Et c'est ça qui peut entraîner une escalade extrêmement dangereuse. Quant à la Russie, elle contrôle un certain nombre de choses et elle est en train de découvrir que quand on est le maître du Moyen-Orient, on ne contrôle pas grand-chose.
Géopolitique.
Alors, ce que j'entends aussi, c'est, on a parlé des rapprochements de l'Arabie Saoudite avec les États-Unis, avec Israël. La question de la guerre au Yémen, elle a quand même permis aussi à l'Arabie Saoudite de répertorier qui étaient ses amis plus ou moins proches.
Non, pas vraiment.
Je pense à la question du Pakistan et je pense aussi à l'Égypte, Olivier Dallage.
Alors, l'Arabie a essayé d'entraîner un certain nombre de pays sunnites en estimant que si t'es pas avec nous, c'est que t'es contre nous. Mmh. Et à la grande surprise de l'Arabie Saoudite, à deux reprises en 2015, le Pakistan a fait savoir qu'il voulait pas partir dans des coalitions. Les choses ont changé. Pourtant, les Saoudiens ont essayé très très fort de faire changer d'avis le Pakistan. Ils n'y sont pas arrivés. Mais le Pakistan connaît aussi les limites qui sont les siennes. Et il y a une transaction en quelque sorte. Ils ont prêté leur ancien chef d'état-major pour devenir le chef d'état-major de la coalition. Et on apprend ces derniers jours que le Pakistan va renouer avec une ancienne pratique qui consiste à envoyer des soldats pakistanais, non pas pour intervenir au Yémen, mais pour garantir la sécurité du territoire. Donc les deux ont trouvé un compromis et je pense que la fâcherie est maintenant derrière nous.
Alors, peut-être pour conclure, ce qu'on sent, c'est une prise de conscience du prince Ben Salman de la nécessité pour l'Arabie Saoudite d'une autonomie. On sait, les alliances fragiles, elles se font et elles se défont. C'est probablement aussi l'un des objectifs, finalement, de ces réformes intérieures. Qu'est-ce que l'on sait, puisqu'on parle d'autonomie et de la rivalité avec l'Iran, des plans nucléaires du royaume saoudien ? Olivier Dallaj.
L'Arabie Saoudite a besoin d'énergie parce que, comme on le disait tout à l'heure, sa population consomme. Et si on veut continuer à exporter du pétrole, il faut avoir d'autres sources d'énergie. Mais comme l'Iran, hein, de ce point de vue-là, et ce qui n'était pas acceptable vis-à-vis de l'Iran devient acceptable pour l'Arabie Saoudite, pour les pays occidentaux. Et donc, un nucléaire civil, c'est un projet déjà ancien qui a été affirmé. Et puis, il y a eu la menace répétée à plusieurs reprises, notamment par le prince Turki, ancien chef des renseignements, mais qui parle pour le compte de toute la famille. Si l'Iran devient une puissance nucléaire au sens militaire, pourquoi pas nous ? Et puis, sur le plan civil, ils ont lancé des accords cadres avec une dizaine de pays. Et le mois prochain, donc au mois de mars, ils doivent choisir qui seront leurs partenaires pour le nucléaire. Et la question, évidemment, est celle de la non-prolifération. On dit que Trump serait porté à des accommodements avec les règles très strictes imposées par le Congrès, la fameuse règle dite 1-2-3.
Oui, dont bénéficient les Émirats Arabes Unis.
Oui, mais après des négociations qui leur ont imposé des conditions très strictes, comme avec l'Inde, comme avec d'autres. Hein. Mais l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite. Parce qu'ils veulent pas perdre le contrat de Westinghouse. Mais il y a la France, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la Corée du Sud et d'autres qui sont sur le terrain. Probablement, les Saoudiens choisiront plusieurs, je serais pas étonné. Mais il n'est pas question de nucléaire militaire à ce stade. Et Israël, qui s'inquiète beaucoup de cette perspective, fait pression sur ses amis au Congrès américain, mais anticipant une possible défaite, essaie de poser des conditions auprès de l'Arabie Saoudite pour obtenir une reconnaissance plus claire. Et là, on arrive quand même, à mon avis, à la limite de ce que le prince Ben Salman peut faire, parce que la normalisation des relations avec Israël n'est pas à l'ordre du jour pour la population saoudienne. Donc on en est là actuellement.
Fatia Daziani.
J'ai rien à rajouter à cette conclusion très complète d'Olivier sur effectivement le fait que la population saoudienne n'est pas prête par rapport à la normalisation. Cette normalisation avait été évoquée par le plan Abdallah et le plan arabe de paix. Hein.
Mais elle est indispensable, cette normalisation, je veux dire, sur les... parce qu'il y a rapprochement.
Mais... encore faut-il qu'Israël fasse aussi des concessions et des compromis. On ne peut pas laisser en l'état la manière dont la question palestinienne est traitée par Israël. C'est absolument impensable pour les Saoudiens. Et la question de Jérusalem est ultra symbolique. Moi, j'étais à Riyad quand il y a eu cette déclaration de Trump. Je peux vous dire que les Saoudiens, ils étaient absolument furieux de cette déclaration. Donc là, là-dessus, effectivement, je crois qu'MBS s'est rendu compte, Mohamed Ben Salman, pardon, s'est rendu compte que, effectivement, sa vision très business de la région, il fallait quand même qu'il prenne en compte des choses extrêmement sensibles. Et son père est monté au créneau, a fait des déclarations très dures sur l'irresponsabilité de la déclaration de Trump. Et là, c'est vrai que le papa a joué son rôle de garant.
Serge Sûr.
D'abord, pour ce qui est d'Israël, je crois que les changements de politique israélienne ne viendront que de la vie politique israélienne elle-même, que de la dynamique éventuelle de la politique israélienne. Je ne vois pas qu'elle puisse céder à les pressions extérieures. Et pour ce qui est du nucléaire, le nucléaire civil n'est pas le nucléaire militaire. Il y a tout de même un gap assez profond entre eux. Et je crois que l'une des priorités de la société internationale aujourd'hui, c'est la lutte contre la prolifération. On ne laissera pas proliférer l'Arabie Saoudite. Moi, ça me paraît une donnée évidente.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Serge Sûr, directeur de l'annuaire français de relations internationales, rédacteur en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro est précisément consacré à l'Arabie Saoudite sous le titre Arabie Saoudite, transformation ou illusion. Fatia Daziani, chercheuse spécialiste des monarchies de la péninsule arabique et du Golfe à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur de L'Arabie Saoudite en 100 questions aux éditions Thaïlandier, et Olivier Dallaj, journaliste à RFI, auteur de plusieurs ouvrages. ouvrage consacré à la péninsule arabique, dont une géopolitique de l'Arabie saoudite aux éditions Complexe. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte.